Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers popologues, popophiles, amateurs de pop de tout poil, voici donc une nouvelle émission de Pop en stock, nouvelle mouture transatlantique et zoomesque. Et aujourd'hui, transatlantique, nous le sommes parce que nous retrouvons plusieurs amis de l'autre côté de l'Atlantique. Nous recevons Anne-Elisabeth Alpern, professeure à l'URCA en littérature française avec toutes ses itérations les plus multiples et diverses, donc littérature française contemporaine. Bonjour Anne-Elisabeth.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous recevons aussi de l'autre côté donc, de l'Atlantique, Sébastien Hubier, notre cher ami, collaborateur déjà habituel de l'émission et de la revue Pop en stock en ligne, où il dirige certains dossiers, notamment celui consacré au cinéma reaganien. Donc, professeur à l'URCA et à Sciences Po, parmi la quantité d'ouvrages qu'il a publiés, en lien un peu bizarrement avec le sujet d'aujourd'hui, son ouvrage sur les sexy teddies, donc, où il y avait déjà eu maille à partir avec certaines figurations animées. Salut Sébastien.
Bonjour à tous.
Bonjour, donc merci beaucoup d'être là. De l'autre côté donc de l'Atlantique aussi, Wendy Perrin, étudiante en master URCA, qui vient de présenter donc son master consacré à la question des cartoons, de la construction légère à une déconstruction lourde de sens. Bonjour Wendy.
Bonjour.
Clément Pellissier, qui d'ailleurs dirige Pop en stock France, auteur conférencier sur les littératures de l'imaginaire, qui avait dans sa thèse notamment travaillé sur la question des représentations scientifiques intuitives dans les comics. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Et enfin, notre collègue ici à Montréal, Sylvain David, professeur à l'Université Concordia, critique télé à la revue L'Inconvénient. Bonjour Sylvain.
Bonjour tout le monde.
Cette palette assez disparate, vous vous demandez sans doute qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui. C'est nul autre que le tandem mythique et totémique formé par Bip Bip et Coyote, donc la création immortelle, on peut le dire, de Chuck Jones, qui va nous occuper et dont nous allons analyser les tenants et les aboutissants. Le coyote est un squelette long, mince, malade et pitoyable, recouvert d'une peau de loup grise, d'une queue assez touffue qui s'affaisse sans cesse avec une expression de désespoir et de misère, d'un œil furtif et mauvais et d'un visage long et acéré avec une lèvre légèrement relevée et des dents apparentes. Il a une expression générale de repli sur soi. Le coyote est une allégorie vivante de want. C'est vraiment comme la volonté extrême. Il a toujours faim. Il est toujours pauvre, malchanceux et sans amis. Les créatures les plus méchantes le méprisent et même les puces l'abandonneraient pour un vélocipède. Il est tellement sans esprit et lâche que même si ses dents exposées font semblant d'être une menace, le reste de son visage s'en excuse. C'était la manière dont Mark Twain présentait cette créature mythique du Far West dans un texte fondateur du travel writing, ancêtre aussi du road trip national américain, ainsi qu'un jalon incontournable de la mythologie du Far West, Roughing It, paru en 1872. C'est à partir de cette description, en fait, il faudrait toute la lire parce qu'elle est absolument passionnante, c'est la première grande représentation littéraire de la créature du coyote qui va nous intéresser, où d'ailleurs le coyote est présenté dans une quête impossible, mais où c'est lui qui est pourchassé par le chien du narrateur. Et c'est lui qui disparaît dans la poussière, dans le lointain, au point que le chien de Mark Twain renonce à sa poursuite. La conclusion du texte, d'ailleurs, est une sorte d'élégie de la créature. Nous avons rapidement appris à reconnaître l'aboiement aigu et vicieux du coyote lorsqu'il traversait la plaine sombre la nuit pour venir troubler nos rêves parmi les sacs de courrier et en nous rappelant son aspect désespéré et sa dure fortune, nous nous sommes déplacés pour lui souhaiter la nouveauté bénie d'une longue journée de chance et un garde-manger illimité le lendemain. Et c'est cette description qui aurait marqué Chuck Jones pour la création de sa créature, donc Wile E. Coyote, sous-titré dans un cartoon postérieur Genius, autonomie, autotitré Genius, qui l'aurait inspiré pour créer graphiquement ce qu'il a considéré comme une sorte d'anti-Bugs Bunny du point de vue purement iconographique, la dialectique sisyphéenne qui va le transformer donc en une incarnation du désir jamais satisfait, opposé à une autre créature du désert, donc le Roadrunner, qui est un drôle d'oiseau bleu. En réalité, c'est, en français, c'est un grand géocoucou, qui est un nom qui semble un peu issu des cartoons et qui sillonne les routes du désert dans le sud des États-Unis. Chuck Jones, inspiré par cette description de Mark Twain, trouve ainsi la créature totémique pour ce qu'il considère initialement comme un one-shot. En fait, il considère qu'il va faire une sorte de parodie d'un genre qui est devenu hégémonique à l'intérieur des cartoons, qui est le genre de la poursuite, et qu'il considère a abouti, après avoir lui-même contribué à cette course effrénée à l'imitation de Tom and Jerry, qui était le modèle qui avait vraiment triomphé dans les années 40 et qui avait essaimé une quantité d'imitations, Chuck Jones ayant lui-même donc créé un tandem tout aussi mythique, est fatigué de cette formule et décide d'en faire une parodie qui serait donc un seul cartoon, mais qui en fait va refonder complètement ce genre. Anne-Elisabeth, tu voulais justement nous parler de la question de la prédation qui est centrale dans la dynamique, voire la dialectique, entre ces deux créatures avancées par Chuck Jones et son premier scénariste maltais.
Cette traque et cette chasse, cette course-poursuite entre le prédateur et sa victime, Wendy nous dira combien ça confine à la quête plus qu'à la simple traque. Alors, c'est a priori une chasse animale tout à fait ordinaire et qui suit les lois de la zoologie, mais très très vite on comprend que c'est anthropomorphisé. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Comme ça fonctionne de manière encore plus explicitement sexuelle, je pense, dans Speedy Gonzales. Mais là, enfin, je vous en parlerai un tout petit peu de la sexualité, mais c'est plutôt sous-jacent. On est dans la fin FIM, la chasse pour se nourrir, hein, parce que le coyote, il a constamment faim, c'est ça son truc. Et ça relève de tout cet imaginaire de la conquête de l'Ouest et des passages dans les plaines avec les chariots, on ne trouvait pas à manger, enfin, etc. Donc il y a tout ce background culturel, hein, qui intervient là, mais la fin du coyote, elle relève autant de la fin sexuelle que de la fin biologique. Et c'est sa langue pendante, tous les jeux sur la langue d'ailleurs, que ce soit la langue du coyote ou que ce soit la langue de Bip Bip, ça rappelle évidemment le Woofie de Tex Avery. Et donc cette chasse, cette prédation, elle amorce toute la narration, c'est-à-dire tous les épisodes sont faits de chasses successives. Il s'agit de, pour Bip Bip, d'échapper au coyote, même s'il le provoque quand même sérieusement, et au coyote de choper Bip Bip pour en faire son lunch. Donc il y a ce principe de construction, et quand je dis il y a une chasse animale qui est aussi une chasse sexuelle, on peut se poser la question de la traque ou de la prédation sexuelle, parce que vraiment, Roadrunner, ça pourrait être une sorte de principe féminin qui prendrait sa revanche sur le mâle triomphant. Alors, il n'est pas sexué, Roadrunner, hein, mais il n'est pas sexué pour le spectateur, mais il peut l'être pour les coyotes dans les films. Par exemple, il y a un des épisodes qui s'appelle Ready, Set, Zoom, où le coyote se déguise en femelle Roadrunner, et avec tout ça qu'il a récupéré chez Acme, bien sûr. Et ça provoque l'émergence d'un tas de coyotes qui ont la langue pendante de désir sexuel. On comprend que la traque, elle est double. Et alors, comme dans cet univers qui est finalement assez moral, la traque échoue. C'est-à-dire que le coyote n'arrivera jamais Enfin bon, il y a peut-être un épisode que je ne connais pas, mais le coyote ne réussira jamais à choper le Roadrunner quand il arrive à l'attraper de temps en temps, mais c'est un artefact, c'est pas vraiment lui. Et il n'arrive pas à attraper le Roadrunner parce que ça mettrait fin à la narration. Ce n'est pas du tout pour des questions morales, c'est que s'il attrape le Roadrunner et qu'il le bouffe, sérieux, c'est fini, quoi. That's all, Fox, et puis on arrête tout. C'est dans les règles, les espèces de bibles de la série. Et cette traque qui n'aboutit pas, c'est une sorte, pour moi, c'est une sorte de manière délibérée de faire de l'anti-Disney. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition pour l'agresseur, finalement, parce qu'il recommence toujours. Il ne meurt jamais, le coyote, hein. Même s'il se fait aplatir, etc., il ne meurt jamais. Mais il n'y a pas de sympathie non plus pour la victime, qui est Roadrunner. Oui, c'est ça qui est Bibi. Le ratage de la traque, l'échec de la traque, tient, je pense, au plaisir du spectateur. Il faut qu'il y ait ce ratage, il faut qu'il y ait cette espèce de concours pour les Darwin Awards, mais enfin bon, ça ne marche pas. Finalement, celui qui est traqué, hein, le Bip Bip, devient celui qui traque, parce qu'il y a quand même quelque chose de très provocateur chez Bip Bip. S'il ne passait pas en faisant Bip Bip, en tirant la langue, etc., à côté du terrier du coyote, ou ce qui lui sert de terrier, l'autre ne deviendrait pas foudrage, quoi. Il y a un épisode où il est, un des premiers épisodes d'ailleurs, où le coyote est vraiment affamé, il finit par bouffer une boîte de conserve vide tellement il n'en peut plus. Et il est prêt à manger tout et n'importe quoi, sauf évidemment le Roadrunner. Et c'est parce que le Roadrunner vient le provoquer qu'il remet en marche sa technique, enfin plus ou moins efficace, son dispositif, ses dispositifs pour le traquer. Donc c'est moins simple que ça ne le semble. Hein. Et cette traque, ce jeu de chasseur-chassé est plus subtil d'ailleurs, et c'est ce qui fait le charme du truc. Hein. C'est beaucoup plus subtil que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Et c'est l'impossibilité pour eux de se rencontrer en réalité. Et je le vois, moi, par exemple, dans l'effet divergent des moyens techniques utilisés. On en reparlera beaucoup, mais il y en a un qui me paraît exemplaire de cette traque ratée. Quand le coyote, par exemple, peint des faux sur... Il peint un panneau, il peint la route, il peint la falaise, etc. Et de façon à ce que le Roadrunner se plante dedans et il l'attrape comme ça. En réalité, Bip Bip réussit toujours à passer. Donc Bip Bip échappe toujours à la traque. Et quand le coyote, pour vérifier la pertinence du moyen utilisé, se jette contre le simulacre de route qui est en fait un panneau, ben lui, évidemment, il se le prend en pleine face et il se trouve découpé dans le panneau. Donc, il y a une sorte de dispositif qui est que la traque ne peut pas aboutir parce qu'elle ne procède pas de la même nécessité chez les deux personnages. Chez le Roadrunner, il est sûr d'y échapper. Donc, il peut jouer la provoque. Le coyote, lui, non. Hein, il y a quelque chose de très, très, très fort dans sa façon d'aborder cette traque. Et je pense que, et c'est probablement ce que Wendy va développer bien mieux que ce que je fais un peu à l'arrache et en impro, que cette traque, elle ressortit à la quête, et à une quête qui est une quête bien plus large que simplement le nombre de calories qu'il faut absorber pour survivre biologiquement.
Je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là. Les deux créatures ne semblent pas évoluer dans le même monde. On y reviendra avec la question des lois physiques qui ne semblent pas s'appliquer de la même manière à l'un ou à l'autre. Donc, on serait en plein relativisme einsteinien, qui était une grande référence, évidemment, dans le paradigme moderniste. Mais aussi, peut-être, pour reprendre un petit peu l'orientation un peu psychanalytique, l'un semble être régi par le principe de réalité ou confronté au principe de réalité, alors que l'autre y échappe et vit dans la toute-puissance du principe du plaisir. Donc, c'est pour ça que ce qui ne marche pas pour le Roadrunner, finalement, ne semble pas créer de problème. Quand il peint une route sur un rocher, ça marche pour Bip Bip, qui s'y enfonce allègrement. Et quand lui, il essaye de le suivre, il se prend la roche. Donc, on a comme une sorte d'illustration du traumatisme, donc de l'apprentissage par l'enfant du principe de réalité. Et puis, pour ne pas oublier, tu parlais de la langue pendante. Évidemment, Tex Avery avait travaillé avec Chuck Jones. Donc, c'est toute une histoire avec les studios, puis qui part dans quel studio, etc., etc. Mais effectivement, la langue pendante était l'attribut du wolf, qui était la figure emblématique de l'homme loup comme prédateur sexuel, représenté et quelque peu déconstruit par Tex Avery.
C'est vrai que lorsqu'on voit le Roadrunner narguer le coyote, on pense à tout d'abord une première quête anthropologique cinégétique, donc relative à la chasse. Et on peut voir qu'elle est inscrite en chacun de nous. Donc nous avons besoin de manger pour vivre, même si nous ne vivons plus seulement de chasse et de pêche grâce à l'évolution de nos sociétés. Cette quête est donc en référence directe avec la traque, car même si la course-poursuite est un élément central du genre, sans lequel le cartoon n'aurait pas lieu d'être, on voit que le coyote aime traquer sa proie. S'il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de chasse, car le plaisir en fait de chasser, on le voit bien, se trouve dans le plaisir de traquer. On le voit bien, c'est un jeu, c'est assez clair là-dessus. Après, on voit aussi ce schéma avec Tom et Jerry, Titi et Grosminet, mais là, il s'agit de chats et donc de coyotes qui sont par définition de fins chasseurs, même si ce qui nous intéresse ici, c'est la relation trophique qui lie le prédateur à sa proie. Et par contre, pour faire une petite remarque, ce n'est pas le cas avec Elmer Fudd, le chasseur, qui veut tuer Bugs et Daffy, parce que ce qui l'intéresse, c'est seulement le plaisir de tuer, parce que dans plusieurs épisodes, en fait, on voit qu'il ne mange ni lapin ni canard. Donc cette volonté obsédante et incessante de vouloir manger marque le stade oral. On peut le voir, justement, d'après Freud, le stade oral est caractérisé par une zone érogène présente dans la bouche ainsi que dans l'œsophage. Toutefois, ce stade oral est aussi marqué par le plaisir de satisfaire la faim. Voilà pourquoi ces personnages veulent tant aussi attraper leur proie. Nous pouvons voir aussi que ces chasseurs dépassent le stade oral et en sont au stade dit sadique oral, où le fantasme oral réside aussi dans le fait de manger ou d'être mangé. Et cela nous ramène à notre besoin de manger au-delà de la fonction vitale, comme ce qui a été dit précédemment, qui fait aussi un écho à la chaîne alimentaire, ce qui réveille en nous une peur profonde, qui est celle d'être dévoré. Donc on peut dire que cette quête, elle rejoue par l'abréaction, donc le fait que des éléments totalement oubliés, enfouis, nous reviennent à la mémoire. Enfin, cette quête, elle rejoue donc cette abréaction qui permet la survie. Et en fait, ça nous ramène au fait que voilà, on doit toujours se battre pour notre survie, pour notre condition humaine. Ce cartoon permet de montrer cette chasse de manière plus douce, justement par le fait que ce soit des personnages humanisé, personnifiant justement en ville coyote, puisqu'il arrive de l'apercevoir avec un couteau et une fourchette en main pour faire de Roadrunner son repas. Et ensuite, il y a vraiment donc cette quête qui est sous-jacente, mais qui est importante, c'est celle de la quête du plaisir érotique et sexuel, parce que c'est vrai que quand on voit le coyote avec cette volonté folle d'attraper Bip Bip avec la langue pendante, justement, tout ça, c'est vraiment relatif à la sexualité. Et en plus, on a vraiment donc la relation du désir de l'autre qui est instaurée. Il y a vraiment ce jeu de séduction qui est présent dans notamment les relations humaines. Ça rejoue en fait le « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis ». C'est ça aussi, ces courses-poursuites. Parce qu'on peut voir qu'il est toujours question de deux personnages, l'un plus imposant, enfin, aux caractéristiques plus imposantes, ce personnage-là est plus brut et souvent plus stupide que l'autre. Pour ce qui est justement du coyote, ce qui semble être caché finalement ne l'est plus, parce qu'on a vraiment des types clairs de personnages qui se dessinent, et ce qui se rapporte justement à l'un plus masculin et l'autre plus féminin, même si le Roadrunner n'est pas sexué, c'est vrai qu'il a des caractéristiques qui se rapprochent d'emblée plus des stéréotypes féminins. Tout ça rappelle aussi justement cette histoire du petit chaperon rouge qu'on racontait aux petites filles pour se méfier justement des hommes, et parce que ce sont des loups, des prédateurs sexuels, voilà ce qu'on leur racontait. Aussi, il y a cette volonté donc de manger qui est, comme on l'a dit, la chasse, mais aussi on a cette connotation sexuelle qui est visible de manière indéniable, puisque le fait de consommer, ça rappelle justement le fait de consommer son mariage, qui est vraiment la suite. Voilà, pour faire valoir un mariage, il faut passer par l'acte sexuel, ce qui était plus présent avant qu'aujourd'hui. Après, voilà, on peut voir que les personnages de Titi, Jerry et Bip Bip, pour les rapprocher, ils sont plus malins et ils contrebalancent le modèle du personnage naïf, qui est celui du chaperon rouge qu'on a évoqué précédemment. C'est eux, comme justement on disait précédemment, qui provoquent la course-poursuite. Ils suscitent le désir et réveillent des pulsions primitives chez leurs partenaires, et plus encore lorsque les partenaires respectifs ne s'intéressent pas à eux. Justement, on retrouve le fait de narguer l'autre, c'est vraiment une volonté qui est présente. Ces pulsions primitives et ces courses-poursuites, on peut vraiment constater que c'est la représentation des désirs humains et des relations hommes-femmes, ou du moins des relations...
On oublie souvent, mais la course-poursuite est à la base du cinéma. Les premières représentations de course-poursuite datent de la fin du 19e siècle, très vite. C'est vraiment un des formats qui s'impose. Et au fait, c'est un format qui s'impose dans différentes déclinaisons. Il s'impose dans le burlesque, c'est la base du comique du burlesque. Il s'impose dans le western, les premiers westerns qu'on peut qualifier comme tels, de Potter, etc., se présentent comme des courses-poursuites. Même chez Griffith, ça va beaucoup prendre la forme dans Birth of a Nation. La course-poursuite va être une sorte des grammaires, des structures du récit. Ça va être la base de l'extension du western dans le milieu urbain qui va correspondre au début des films policiers de chasse, à partir d'ailleurs d'une métaphore qui était déjà bien ancrée dans le roman policier au XIXe siècle, la figure du limier qui chasse sa proie pour désigner le détective. Donc en fait, ça va devenir hégémonique dans les cartoons. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a comme une sorte de structure qui va, dès les débuts du cinéma hollywoodien, pré-hollywoodien, c'est avant que Hollywood s'installe à Hollywood, si on veut, mais ça va vraiment créer donc l'articulation de tous ces autres genres qui, a priori, sont disparates, mais c'est vraiment ce qui va faire communiquer la poursuite burlesque et le cartoon, qui en est directement inspiré, mais aussi la poursuite du western qui est souvent parodiée dans les cartoons, la poursuite policière qui est elle aussi souvent parodiée, et inversement, le cartoon va influencer de manière étrange les autres genres avec des films un peu bizarroïdes, comme d'ailleurs une sorte d'incarnation très improbable du coyote par Kirk Douglas dans un western parodique qui s'appelle The Villain, où il y a tous les gags du coyote qui sont repris par Douglas. Peut-être au plus bas de sa carrière, on pourrait dire, malheureusement, parce que l'idée était très bonne et que peut-être qu'un remake du Villain s'impose maintenant que nous pouvons défier les lois de la physique, justement, sur lesquelles nous reviendrons. Mais effectivement, Chuck Jones, fatigué de la logique de la course, au fond, est lui-même pris dans la course et devient lui-même une créature sisyphène, puisque avec le succès de sa parodie, il est obligé de commencer à faire tout un nouveau cycle de course-poursuite. Et maintenant, en fait, ironiquement, même s'il est par ailleurs le créateur du prototype de Sylvestre, on l'oublie souvent, mais c'est Chuck Jones qui a fait le prototype de Sylvestre, mais c'était un genre qui, lui, en était venu à le fatiguer. Il disait, les dessins animés sont tous devenus la même chose, et c'est la course-poursuite qu'il faut complètement dépasser. Or, il est devenu l'emblème. Coyote est l'emblème de la course-poursuite dans le cartoon. Et c'est un effet très curieux que nous soyons au stade déjà parodique, voire maniériste de la formule, et que ce soit cette formule, presque si l'on voulait vraiment reprendre un peu les distinctions jadis utilisées en histoire littéraire, mais c'est presque le passage de la course classique à une course moderniste, si l'on veut, voire postmoderne, quelque part dans les itérations ultérieures. Sébastien, tu vas nous parler justement des différents régimes du comique dans ce cartoon.
Antonio, tu as utilisé le terme de genre, et je pense que c'est un terme important, au sens où les cartoons nous conduisent à conclure avec eux un pacte très particulier qui fait fi de la vraisemblance. Quelqu'un qui chercherait la vraisemblance dans les aventures du coyote serait irrémédiablement déçu. C'est un univers anti-réaliste, et c'est aussi un pacte qui nous oblige à accepter un certain nombre de traits. Le fait que nous sommes, par exemple, confrontés à un univers gaguesque, fait de caricatures, car je pense que le coyote est une caricature aussi, une caricature du vorace, tandis que le bip-bip est une caricature du fourbe, presque du héros démoniaque. Et puis, c'est des pactes qui nous conduisent à accepter l'idée même de non-sens, au sens du no-sense. Tout ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de continuer à poursuivre cet animal, pas plus que ça n'a de sens de sculpter, puisque c'est dans un des épisodes, de modifier meudler plus exactement un bip-bip en terre anglaise, de le faire rôtir dans un four fabriqué à cet effet, de se rendre compte qu'on ne peut pas le manger. Ça n'a pas plus de sens que de mâcher des boîtes de conserve. Anne-Elisabeth en parlait tout à l'heure, ça revient dans plusieurs épisodes et évidemment, c'est tout de même assez particulier et je pense que c'est cette particularité qui fait qu'on peut parler de genre, un genre fait de running gag, etc. Il me semble qu'il y a quand même plusieurs strates de comiques, non seulement à l'intérieur de Bip Bip et le Coyote, mais même au sein des cartoons, et que le comique du Coyote n'est pas le comique de la sitcom que sont les pierres à feu, c'est pas le même type de comique que dans Scooby-Doo, c'est évidemment pas le même comique non plus qu'on trouvait dans Félix le Chat. Et c'est même pas tout à fait, même si la série y ressemble, c'est pas tout à fait ce qu'on trouvera dans Speedy Gonzales, par exemple. Moi, il me semble que dans le Coyote, on est beaucoup plus confronté à quelque chose qui s'apparente à l'humour qu'à quelque chose qui s'apparente au comique pur. Car il y a là-dedans bien des peurs qui sont des peurs d'enfants, nos peurs d'enfants, qui sont sans cesse rejouées. La peur de tomber dans un trou et d'exploser, la peur d'être démembré, et même, à vrai dire, la peur de se retrouver pris à son propre piège, au mépris des règles de la physique, non seulement des règles de la gravité, mais même des règles des ressorts, puisqu'il y a cette fameuse scène dans laquelle Coyote, voulant utiliser un ressort pour être projeté à la vitesse du bip bip, Coyote se retrouve non pas projeté mais enfoncé dans le ressort qui le ficelle comme un saucisson, et c'est lui qui de nourriture en quelque sorte devient le saucisson en question. Il me semble donc que comique et humour doivent être distingués, et je pense qu'on en reparlera, c'est autour de la notion d'incongruité qu'on peut distinguer cette affaire. C'est-à-dire que l'incongruité dans les aventures du Coyote, c'est ce qui apparaît comme une sorte de non-congruence, une discordance dans l'ordre habituel des choses. Dans l'ordre habituel des choses, finalement, on prend plutôt, au moins dans la fiction, parti pour la victime potentielle, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Enfin, ou alors c'est moi qui suis d'un caractère particulier, mais je soutiens toujours le Coyote et une détestation farouche pour le bip-bip, et j'attendrai qu'il soit enfin attrapé et mangé sous nos yeux. Donc c'est une discordance par rapport à l'ordre habituel des choses, et c'est un humour qui est aussi d'une perception incongrue. Il ne s'agit pas simplement de percevoir l'incongruité pour qu'elle soit drôle, il y a autre chose que ça. Il me semble que ça réside, cette incongruité particulière, qu'elle réside dans le fait qu'il n'y a jamais de résolution dans la traque ou dans la quête, comme on voudra, selon les deux termes qui ont été utilisés par Wendy et par Anne-Elisabeth. Il n'y a jamais véritablement de résolution de la traque ou de la quête du Coyote, et il n'y a pas davantage d'ailleurs de résolution quant à comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Sinon, à revenir sur la psychanalyse, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y faire retour dans la discussion, qu'effectivement, ils ne vivent pas dans le même monde, et que non seulement il y a une opposition entre l'ordre du principe de réalité et l'ordre du principe de plaisir, comme le disait Antonio tout à l'heure, mais que même au sens lacanien, ils ne sont pas dans le même registre, que très clairement, Bip Bip est du côté de l'imaginaire, et que c'est pour ça que quand il dessine un tableau, il peut passer sur le pont qu'il a peint ou emprunter l'autoroute qu'il a dessinée, tandis que le pauvre Coyote, lui, est un Coyote adulte et pas un Coyote enfantin, que c'est un Coyote qui est plongé dans le registre du symbolique et que lui fait la différence en quelque sorte entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, si bien que quand il veut passer sur le pont, évidemment, il n'y a pas de pont et il tombe. Le gag le plus utilisé, en tout cas moi qui me semble le plus drôle, est celui où il tombe toujours à la même place, si bien qu'il retombe à côté de l'empreinte qu'il a laissée dans la chute précédente, et que même quand il a eu l'idée dans sa grande intelligence de mettre une sorte d'issue de secours, un trampoline, le trampoline cède sous son poids, et voilà qu'il retombe, après avoir percé le trampoline, il retombe dans l'empreinte qu'il avait laissée précédemment, décidément rien ne lui est épargné. Je pense qu'il faudrait aussi faire la distinction entre drôle et risible, et ça, je pense qu'on y reviendra dans la discussion, et que tout ça engage évidemment les lois de la physique. C'est un univers dont Clément va parler. Je pense que c'est un univers qui ne connaît pas nos lois habituelles, ou plus exactement qui les renverse cul par-dessus tête, et que c'est ce renversement du cul par-dessus tête qui fait le comique ou l'humour.
Tout à fait, Clément, tu vas justement nous parler de ça.
Je vais faire un aparté qui n'en est pas un. Ça peut sembler un hors-sujet, mais rassurez-vous, nous sommes toujours dans le monde des cartoons et je nous ramènerai rapidement en Arizona sur les traces de nos deux compères. Quand j'étais plus jeune encore que maintenant, quand j'étais petit garçon, j'étais fasciné par les cartoons. Et il y a eu une porte d'entrée aux cartoons qui ne s'est pas faite pour les cartoons pour moi. Suivez bien. En fait, j'étais passionné par un film qui a aujourd'hui certes vieilli et qui n'est pas un monument du cinéma au sens où on peut l'entendre, mais qui reste une Madeleine de Proust pour moi, c'est The Mask. Film de 1994 avec Jim Carrey qui trouvait un masque magique et quand il le mettait, il devenait justement une sorte de super-héros cartoonesque qui ne craignait absolument plus rien. Et c'est justement là où j'étais déjà questionné étant petit sur les lois de la physique et sur la magie incroyable qui se jouait dans le monde des cartoons, puisqu'en fait, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que Stanley Ipkiss, quand il enfile le masque, est à l'origine un fan de cartoons et un fan de Tex Avery. Et c'est quelque chose qui, dans le film The Mask, est souvent invoqué, justement, l'hommage à Tex Avery et le fait que, justement, quand il met le masque et quand il devient cartoonesque, Stanley Ipkiss devient une créature immortelle qui peut auto-créer de la matière issue du néant, issue de ses poches, et il remodèle le réel comme il le veut. Et d'ailleurs, on retrouve aussi la thématique de la prédation sexuelle, puisqu'il fait une scène terrible de prédation sexuelle à Tina. Malgré toute la nostalgie que j'ai pour ce personnage, je crois que là, on ne peut pas l'amnistier à ce moment-là. Mais c'est parce que aussi, le masque n'a pas peur de mourir, tout comme un autre personnage qui m'a beaucoup marqué dans l'univers réel et cartoonesque, c'est celui de Roger Rabbit. Et là, ici, c'est même une mise en abîme du cartoon et du réel, des lois de la physique et du monde réel. C'est-à-dire que, comme il l'explique à Eddie Valiant dans le film, être toon, c'est un métier pour Roger Rabbit, et à aucun moment, les toons n'ont peur de mourir. Et c'est la raison pour laquelle je considérais le juge de mort, ou le juge Doom dans la version originale, comme l'un des plus terribles méchants, puisqu'il avait trouvé le moyen de tuer les toons, avec une scène d'ailleurs assez traumatisante pour un enfant, hein, la scène de la trempette avec la pauvre petite chaussure qui se fait dissoudre dans l'ammoniac. Déjà à cette époque, avant même de découvrir Roadrunner et ses comparses, j'avais déjà cette intuition que les cartoons nous ouvraient à un monde absolument incroyable où les lois telles que nous les connaissons sont totalement pliées, inversées. Et ce que je trouve très intéressant par rapport aux lois de la physique dans Bibi et Coyote, c'est que justement, comme l'a dit Sébastien, a priori, elles n'existent pas du tout, elles perdent prise, et pourtant, il y a un running gag, enfin, il y en a plusieurs, certes, mais il y a un running gag qui, pour ce thème-là, est particulièrement significatif, me semble-t-il, c'est le gag du ciel. À plusieurs reprises, le coyote marche sur le ciel de manière à pouvoir traverser un précipice et à rejoindre Bip-Bip de l'autre côté. Eh bien, au moment où le Bip-Bip le regarde et lui montre de sa patte le vide, il lui rappelle qu'il doit tomber et qu'il est soumis aux lois de la gravité, et advient ce sifflement absolument emblématique de la chute du coyote dans les précipices. Pour moi, dans ces gags-là précisément, c'est l'un des quelques cas où justement les lois de la physique reprennent leur place initiale, et très souvent, le cartoon reprend à son compte les lois de la gravité. Mais parfois, justement, ce qui suscite le rire peut-être, c'est justement que finalement, la gravité reprend sa place. Le spectateur sait au bout d'un moment que le coyote va tomber, mais lui semble l'ignorer. Et s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître au coyote, c'est que justement, je pense qu'on peut avoir de l'empathie pour lui, c'est sans doute ce que recherchait Chuck Jones, c'est sa persévérance incroyable. Il pourrait se douter que de toute façon, les machines vont se retourner contre lui, qu'il va tomber, mais non, il continue encore et toujours dans cette quête du désir perpétuel. Et il faut évidemment parler des machines, parce que vis-à-vis des machines, effectivement, les lois de la physique, là aussi, on pourra en parler, les machines se retournent systématiquement contre Coyote, l'écrasent, le broient, le brûlent, enfin bref. On pourrait se demander, par exemple, est-ce que les machines d'Acmé sont défectueuses ou est-ce que Coyote ne sait absolument pas s'en servir ? Il y a peut-être des deux qui jouent. Rappelez-vous aussi ce gag un peu récurrent également, où en fait, il saupoudre les graines censées attirer le bip-bip par du plomb, en fait, de manière à alourdir sa cible et se servir des aimants. Les aimants Acmé, il y en aurait beaucoup à dire aussi. Hein. Justement, on joue avec les tailles aussi des aimants. Quand le coyote espère attraper le bip-bip plus facilement qu'avec un petit aimant et qu'il prend un très, très gros aimant, Et bien, quelque part, ça marche, du point de vue de la physique, enfin, si on peut dire, sauf qu'il récupère un énorme train en pleine figure et non pas sa cible. Donc, finalement, je pense que Bibi et Coyote ne s'affranchit pas totalement des lois de la physique. Il les réécrit, tout simplement. Je pense qu'elles sont bien là. Seulement, elles suivent un code qui, effectivement, ne correspond qu'au cartoon.
Absolument, c'est un des aspects sur lequel nous aurons à revenir. Sylvain va nous parler justement de l'extension, l'autre extension de cet élément essentiel à la saga mythique du Coyote, qui est donc l'entreprise à tout faire, littéralement, Acme.
Donc en fait, j'ai une approche un peu plus thématique de la série. La situation de base, je la rappelle, c'est que le Coyote est affamé, il est incapable d'attraper le Roadrunner pour se sustenter et donc il a constamment recours aux gadgets de la Acme Corporation. Ce qui me mène finalement à un constat, la série repose sur un immense paradoxe. Le Coyote peut commander n'importe quoi par correspondance, sauf de la nourriture. Il a accès à l'ensemble finalement des biens offerts par la société de consommation, sauf le repas qu'il souhaite. C'est encore plus absurde, comme vient de le rappeler Clément, qu'il peut commander de la nourriture pour Roadrunner, pour attraper le Roadrunner, mais finalement, l'option repas pour Coyote n'existe pas. Et donc, quand on a ce paradoxe en tête, on se dit que finalement, il y a quelque chose, un peu comme un cheval de Troie dans la série, parce qu'il y a quand même comme thème sous-jacent une sorte de critique de l'inutilité de la consommation. C'est-à-dire, le Coyote a accès à une foule de marchandises qui, finalement, ne satisfont pas ses besoins réels, ou du moins pas ses besoins primaires. Les marchandises servent finalement à soutenir un besoin secondaire, mais finalement, ça sert à le lancer à la poursuite du Roadrunner, mais finalement, au départ, il a faim, donc ça ne satisfait rien finalement à la base. Et donc, si on se met dans ce point de vue, ça permet de formuler une hypothèse sur la finalité de la série. Anne-Elisabeth, notamment, a rappelé que finalement, la série ne peut jamais se terminer parce que finalement, le Coyote ne va jamais attraper le Roadrunner, ce qui permet finalement de produire des épisodes à l'infini, selon le principe de la sérialité. Mais on peut aussi, finalement, inverser la perspective et, finalement, dans une approche très pérequienne, dire qu'en fait, la logique de la série, c'est l'épuisement du catalogue Acme. Et donc, finalement, s'il y a quelque chose qui permet à la narration de se renouveler, qui permet, finalement, à chaque épisode d'introduire quelque chose de neuf, c'est parce que le Coyote commande quelque chose de différent. Et donc, la variation n'est pas dans la situation, n'est pas dans la poursuite, mais finalement dans la panoplie d'objets qui sont révélés. Et donc, il y aurait vraiment une sorte d'épuisement du catalogue Acme au fil finalement des épisodes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on peut dès lors lire la série sur deux plans allégoriques. D'une part, de manière très générale, on peut y voir finalement une critique de ce qu'on appelait à l'époque le complexe militaro-industriel. Je rappelle que la série est produite à l'époque de la guerre froide, où justement les États-Unis s'endettent pour produire un arsenal technologique et militaire extrêmement coûteux et en même temps un peu inutile parce que finalement, comme on le sait, on n'a jamais fini par faire péter l'URSS. Si j'en reviens à mon thème finalement plus précis de la consommation, on peut aussi voir finalement une sorte d'allégorie par rapport à une dénaturation des besoins. Là encore, il a été question d'un point de vue plus positif que finalement le cartoon, comme bien d'autres, repose sur une anthropomorphisation des personnages. Mais on peut aussi inverser cette perspective et voir au contraire deux animaux complètement dénaturés. Le Roadrunner, comme son nom l'indique, vit dans un désert, mais ne court que sur des routes pavées, des routes avec des échangeurs, des routes goudronnées. Le Coyote finalement est un prédateur, mais qui est incapable d'être un prédateur par lui-même. Il a besoin d'outils humains pour être capable de poursuivre sa proie. Et donc, on en revient à ce que je disais précédemment, on a des faux besoins, on a une perte de soi qui est créée finalement par l'industrialisation. Et donc, finalement, le manque dont il était question, qu'on liait souvent finalement à une question sexuelle, est aussi finalement un manque causé par le commerce et les faux besoins que finalement ce commerce tend à éveiller. Et donc, en fait, c'est un peu ma révélation dans ce revisionnement de la série. Je veux dire, quand j'étais petit, évidemment, je ne voyais pas ceci, mais à partir du moment où on voit qu'il y a peut-être cet élément critique par rapport à la consommation, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait étonnant finalement dans ce cartoon. Un cartoon qui, comme on l'a rappelé, finalement, se veut à la base méta, se veut à la base une parodie des cartoons, mais finalement dans un genre qui s'adresse aux enfants américains pendant les 30 glorieuses américaines et donc finalement à une époque où le commerce est roi. il y a quand même notamment cette critique sous-jacente qui devient très évidente une fois qu'on l'aperçoit, de l'inutilité finalement de cette consommation.
Oui, absolument. D'ailleurs, pour abonder tout à fait dans le sens, on associe beaucoup l'expression du complexe militaro-industriel au célèbre discours de Dwight Eisenhower en 61. Mais en fait, le terme lui-même avait été avancé par Ledbetter en 47, donc exactement contemporain de la création du Coyote. Et l'analyse que fait Eisenhower était déjà un peu avancée par Friedrich Hayek en 1944 dans The Road to Serfdom, donc la route vers la servitude. Il faut rappeler aussi, pour mettre en contexte cette critique, que Hollywood en 49 est un terrain de bataille. C'est le terrain de bataille entre la gauche hollywoodienne qui avait pris un peu le contrôle avec le New Deal et pendant l'époque de la dépression, mais qui fait face depuis justement 1947, donc depuis 2 ans, à le comité sur les activités anti-américaines qui commence la chasse aux sorcières, donc dès la fin des années 40. Chasse aux sorcières où en 1947, Walt Disney prend les devants et accuse plusieurs de ses collaborateurs d'avoir été communistes. Donc, un impact énorme sur la communauté des cartoons. Certains collaborateurs de Chuck Jones vont d'ailleurs être appelés à témoigner un peu plus tard, en 51 notamment. Donc, cet aspect de la critique n'est pas du tout innocent. Chuck Jones est, ne l'oublions pas, comme la plupart de ces auteurs de cartoons, une sorte d'intellectuel. Chuck Jones était comme Disney à sa manière, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient des intérêts qui allaient bien au-delà de l'univers des cartoons. Et d'ailleurs, Chuck Jones, le conseil qu'il disait pour les gens qui travaillaient avec lui, c'est lisez, lisez tout, lisez tout le temps. Donc, c'était un omnivore culturel et sans en faire un adornien qui aurait lu La dialectique des Lumières à sa parution, qui était en train de se faire justement au même moment, strictement. Adorno et Horkheimer étaient en train de rédiger le texte dans ces années-là. Mais c'est clair qu'il n'était pas tombé de la dernière pluie et que tous ces gens des cartoons connaissaient au moins le conflit majeur où ils étaient pris entre l'aspect revendicateur de la gauche hollywoodienne, à laquelle ils étaient, des fois, ils participaient, et de la nouvelle réaction qui allait déterminer donc une partie de la guerre froide. Alors, historiquement, ça me semble non seulement plausible, mais ça me semble tout à fait important, et que cette parodie du mail order et de la cornucopée qui était en train de devenir le vecteur idéologique de la guerre froide, le free world, se caractérisait justement par cette sorte de corne d'abondance de la société de consommation. Les deux aspects étaient intimement reliés, le fait de consommer à outrance et le fait de défendre les valeurs américaines. Donc, on peut effectivement comprendre. D'ailleurs, le premier cartoon va entraîner une suite à partir de 51, où le conflit va être encore plus vif et la guerre froide aussi. Donc, ça me semble tout à fait une piste majeure. Nous ouvrons le débat à partir de tout ça. Rappelez peut-être aussi cet épisode très drôle, paru d'abord dans le National Lampoon à la fin des années 80 et reprise dans les années 90, qui est donc le procès intenté par Coyote contre Acme, que vous trouvez sur Internet, qui est assez drôle. Donc, procès, mon client, Monsieur Ville Coyote, résident de l'Arizona et État limitrophe, intente par la présente un procès pour réparation à l'encontre de la société Acme, fabricant et distributeur au détail de marchandises diverses, située dans l'État du Delaware et faisant des affaires dans tous les États, zones et territoires. Monsieur Coyote demande compensation pour un ensemble de blessures personnelles, de pertes de revenus et de souffrances mentales, résultat direct des actions et négligences de la dite société en application du titre 15 du Code des États-Unis, etc. etc. concernant la responsabilité du fabricant. Je vous invite tous les auditeurs et auditrices à aller lire ce document qui est absolument hilarant et très postmoderne par ailleurs et qui montre bien cet enjeu majeur aussi que Acme, donc ce dilemme qu'évoquait Clément entre le fait Acme produit-il des produits défaillants ou bien le Coyote ne sait-il pas les utiliser. D'ailleurs, semble-t-il que, en tout cas pour la version du National Lampoon, le Coyote ne réussit pas, inévitablement, puisque c'est un éternel frustré, il ne réussit pas non plus ses dernières quêtes de justice et la justice américaine lui aurait dénié le bien fondé, probablement en remettant justement à l'idée que c'est lui qui ne sait pas s'en servir ou qui ne suit pas les instructions, puisque rien n'est dit que ces produits sont faits pour attraper un roadrunner. Ça peut être là aussi le hic de la question. Bien, est-ce que donc vous vouliez répondre les uns et les autres à différents aspects de ce qui a été évoqué?
Oui, simplement pas. Clément, merci, tu as mis le doigt sur quelque chose dont j'avais conscience sans le savoir quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux physiques dans le... deux types de lois physiques dans ces histoires de coyotes. Parce que parfois, il est soumis à la gravité et il se rend compte qu'il va tomber, il s'en rend tellement compte qu'il nous regarde droit dans les yeux avec cette fameuse tête qu'il a quand il se rend compte qu'il va tomber, que son corps va emporter sa tête en quelque sorte plus vite qu'elle jusqu'à ce qu'il touche le sol et s'écroule au sol. Puis il y a d'autres moments où j'ai l'impression que les lois de la physique ne s'appliquent pas du tout. C'est-à-dire, il achète une baignoire, un moteur de hors-bord et des patins à roulettes dans un épisode, il plonge le moteur de hors-bord dans la baignoire qu'il a derrière lui et après avoir chaussé les patins à roulettes, il arrive à avancer comme ça. Et je me souviens très bien que quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était possible, que si on avait un moteur de hors-bord qu'on plongeait, puisqu'il était dans l'eau finalement, dans une baignoire qu'on aurait eu derrière soi, on aurait avancé. Maintenant, j'ai compris que ce n'était pas du tout possible et j'ai l'impression qu'il y a deux types de physique. Tantôt, il est dans le monde réaliste, dans un monde naturaliste en quelque sorte, et tantôt, il échappe aux lois naturalistes. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'une sorte de dialectique entre un monde parallèle, excentrique d'un côté, puis de l'autre côté, un monde qui serait vaguement réel quand même, avec d'ailleurs tout ce que Sylvain a pu dire, effectivement, on peut se faire livrer, c'est l'Amazon d'avant l'heure, on peut se faire livrer à peu près tout pour chasser le coyote.
Dans ce même ordre d'idées, si on prend une des machines très rudimentaire et pourtant très inefficace du coup, c'est la catapulte. La catapulte de Rocher revient très souvent. Rappelez-vous, le nombre de séquences où on voit Coyote utiliser divers angles de la catapulte, mais la catapulte finit toujours par se retourner contre lui, quoi qu'il se passe. Mais ça veut bien dire que le Coyote a conscience que des lois de la physique existent et qu'elles vont se retourner contre lui. Sauf qu'à certains moments, on a effectivement l'impression qu'il le sait et qu'il essaye une autre approche. Et à d'autres moments, on va se retrouver avec cette posture sur le ciel, totalement burlesque. Et c'est l'oiseau qui va se charger de montrer avec sa petite patte le sol qui va ramener la gravité sur le terrain.
C'est la loi de Murphy avant la lettre.
C'est ça.
Évidemment, mais c'est aussi, si on revient un peu à l'aspect de critique qu'évoquait Sylvain, il y a quand même toute l'histoire de l'American Dream, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est assez curieux, c'est que le coyote soit un Uber loser et pas du tout un Ubermensch, et que, comme disait Sébastien, notre sympathie va pour le loser. Nous sommes aussi dans les années du film noir, évidemment, où le loser est la figure emblématique. C'est l'anti-héros et c'est la destruction du rêve américain. Donc là aussi, quelque chose d'assez singulier. Et tu te posais la question, Sébastien, est-ce que tu étais le seul? En fait, c'est intégré dans la série, puisque dans un des cartoons que Chuck Jones avait fait pour relancer un pilote d'une série qui n'aura jamais lieu entièrement consacré au Roadrunner, il y a des enfants qui regardent la télévision et qui justement prennent parti pour le coyote. C'était quelque chose qui était ancré dans le projet. Peut-être rappeler d'ailleurs les règles apocryphes, selon certains, les différentes règles qui régissent cet univers présenté dans le livre Chuck Amok, The Life and Times of an Animated Cartoonist. Donc tout d'abord, le coureur de route ne peut pas faire de mal au coyote, sauf en faisant bip bip. Cette règle ne s'applique qu'aux blessures directes. Cependant, indirectement, bip bip blesse souvent, notamment le coyote, par ce cri qui le perturbe, notamment lorsqu'il se trouve sur le haut d'une falaise. Aucune force extérieure ne peut nuire au coyote, seulement sa propre ineptie ou l'échec des produits Acme, ce qui revient au dilemme soulevé par Clément. Et la seule exception, vous me direz, c'est évidemment les trains et les camions qui sillonnent ces routes très paradoxales qu'évoquait aussi Sylvain. Ensuite, le coyote pourrait s'arrêter n'importe quand, s'il n'était pas fanatique. Et là, c'est un très curieux aspect, disons, intellectuel de Chuck Jones, puisqu'il fait référence à une phrase du philosophe qui était alors extrêmement à la mode aux États-Unis, philosophe espagnol, Santayana, « Un fanatique est quelqu'un qui redouble d'efforts quand il a oublié son but », ce qui s'appliquerait très bien, d'ailleurs, Sylvain, à l'idée même de la course à l'armement, passer le pont de son efficacité, c'est-à-dire que quand on a déjà 40 bombes qui peuvent détruire la planète, quel est l'intérêt d'une 41e ? Aucun dialogue, sauf bip-bip. D'ailleurs, c'était une expression utilisée, enfin, c'est un peu une serendipity, c'est parce qu'un des collaborateurs, donc dans ce qu'ils appelaient la terrasse termite, donc la terrasse aux termites, où ils étaient cantonnés dans les studios, qui faisait bip-bip avec sa bouche pour laisser passage quand il avait des illustrations précieuses. Et c'est lui qui a fait donc le célèbre bip-bip, que d'ailleurs lui-même n'écrit pas bip-bip, mais dirait plutôt m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m- cette discipline, mais qui serait assez intéressante. Alors, il y a certaines exclamations onomatopéiques et il y a certains cartoons. En fait, lorsque Coyote intervient avec Bugs Bunny, interfère dans l'univers de Bugs Bunny, Coyote s'exprime. Il s'exprime dans un anglais shakespearien qui le rapproche du monde des vilains, puisqu'évidemment, dans le monde américain de Hollywood, tous ceux qui parlent anglais sont nécessairement suspects, et encore plus s'il parle un anglais élisabétain. Le coureur de route doit rester sur la route, sinon, logiquement, il ne s'appellerait pas coureur de route, ce qui renvoie au paradoxe qu'évoquait Sylvain de ces animaux dénaturés. Rappelons aussi que c'était le terme employé par Vercors dans ce livre assez atypique pour désigner la condition humaine. Nous sommes nous-mêmes des animaux dénaturés. Donc là, l'anthropomorphisation fonctionnerait à un deuxième degré. La règle a été aussi transgressée, notamment lorsqu'il s'agit de mines, de bords de falaises, sommets de montagnes ou bois ferrés. Toute action doit être confinée à l'environnement naturel des deux personnages, le désert du sud-ouest américain. Et là, il y aurait quelque chose aussi d'intéressant à signaler, l'imaginaire de Monument Valley, qui était à la fois l'épicentre du genre épique par excellence du western avec John Ford, mais qui était aussi le territoire des surréalistes américains et des expressionnistes abstraits. Donc, c'est vraiment une sorte de figure totémique de l'Amérique que ce désert. Ensuite, tous les matériaux, outils, armes ou commodités mécaniques doivent être obtenus auprès de l'Acme Corporation. Certains cas, certaines exceptions ont été signalées. Par exemple, tu évoquais, Clément, la boîte de graines. En fait, elle n'appartient pas à Acme, c'est la boîte de graines pour oiseaux Ajax, ce qui serait peut-être intéressant à interpréter aussi. Quand est-ce que Acme intervient et quand est-ce qu'elle n'intervient pas? Ensuite, dans la mesure du possible, faites de la gravité le plus grand ennemi du coyote, donc ce qui rejoint tout ce qu'on a dit sur la physique. Et enfin, le coyote est toujours plus humilié que blessé par ses échecs. Donc ça, c'était apparemment, selon Chuck Jones, les règles qu'il avait définies dans son univers. Chuck Jones, et tu parlais de Pérec, Sylvain, mais en fait, il y a quelque chose de très oulipien chez Chuck Jones. Nous sommes au moment même où l'Oulipo se forme et au moment même des exercices de style de Quenon. Et Chuck Jones, pour chacune de ses créations, partait de préceptes de ce qu'il ne fallait pas faire. Justement parce que dans le monde de l'animation, on peut tout faire, Chuck Jones considérait que ce qu'il fallait, c'était à chaque fois créer des règles de ce qu'on ne peut pas faire. Donc, ce qui était aussi une approche tout à fait de littérature à contrainte, comme l'Oulipo le prenait.
Là aussi, tu m'y fais penser, c'est qu'il y a... Ce qui est curieux, c'est que d'avoir choisi un oiseau qui ne vole pas, parce que finalement, dans cette poursuite du mammifère, lancé contre l'oiseau, c'est un oiseau qui court vite mais qui ne vole pas. Comme Titi d'ailleurs, dans Titi et Sylvestre dont parlait Wendy, Titi ne vole pas non plus. C'est-à-dire, on, bien sûr, et là Wendy a beaucoup parlé de cette affaire, c'est un plus grand qui pourchasse un plus petit. Et bizarrement, notre identification, elle se porte, il me semble, vers le plus grand, vers le plus fort. Ce qui n'est pas du tout ce qui se passe quand on lit les Fables de La Fontaine, par exemple. On préfère l'agneau au loup, etc. Enfin, on le trouve plus aimable, du moins quand on est petit et pas trop envahi par l'idéologie capitalistique. Mais enfin, disons que pour les enfants, on préfère quand même l'agneau au loup, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est le contraire. Notre identification, pas seulement notre sympathie, notre identification se porte porte vers le grand, le fort, contre le petit impuissant, tellement impuissant qu'il ne vole pas, et qui pourtant, par la ruse et par une sorte de toute puissance des pensées, arrive à ruiner les espérances du grand costaud, du coyote ou du chat pour Sylvestre, par exemple. Même pour Tom et Jerry, je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu du même ordre. Même s'il y a une entente entre Tom et Jerry, en réalité, ce sont plutôt des amis, Tom et Jerry, là où Bip Bip et le coyote n'ont pas de relation de complicité. Mais même entre Tom et Jerry, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. La souris est fragile, elle est petite, elle habite un petit appartement très cosy derrière les plinthes de la maison. Le chat semble plus fort et pourtant, c'est lui qui à la fois capte notre sympathie, attire notre identification et c'est lui qui échoue toujours. J'ai l'impression que là aussi, il y a deux plans qui s'enroulent l'un autour de l'autre. Ce n'est pas celui qu'on croit qui est le plus fort, ce n'est pas celui qu'on croit qui est le plus handicapé. À vrai dire, c'est le coyote qui vole le plus dans Bip Bip et le coyote. Il vole peu longtemps puisqu'il tombe vite comme le disait Clément, mais finalement celui qui arrive à se maintenir en l'air quelques secondes, c'est le coyote et pas du tout l'oiseau. Et c'est, voilà.
D'ailleurs, à ce moment-là se rejoignent les deux grands mythes, le mythe de Sisyphe qui venait d'être aussi en 42 théorisé par Camus, avec la célèbre conclusion qu'on pourrait facilement appliquer au coyote. Faut-il imaginer le coyote heureux ? Mais donc, se rejoignent Sisyphe et Icare pour un moment. Donc là aussi, un côté très, très curieux, sans oublier tout l'arrière-fond mythique du coyote, justement dans l'univers amérindien autochtone, où c'est la figure du trickster, avec toutes les ambiguïtés du trickster mythologique, ce dont Chuck Jones était sans doute tout à fait pleinement conscient. Mais oui, il y a une inversion beaucoup plus claire que dans Tom and Jerry, où je dirais que notre sympathie est un peu partagée, et ça c'est tout à fait tes analyses, Sébastien, psychanalytiques de la littérature, qu'on s'identifie à des situations et à des structures et à des schèmes. Et dans Tom and Jerry, je pense que l'identification des spectateurs, elle va autant à l'un qu'à l'autre. Alors que dans le coyote, le fait même que Bip Bip soit tellement un personnage dont on ne sait pratiquement rien, sauf que c'est, pour paraphraser Hernani, une force qui va. Donc en fait, on ne sait vraiment rien. Alors que du coyote, au moins on sait, on s'identifie à sa frustration permanente, à son côté loser, etc. Donc je pense que notre sympathie est plus affirmé dans le cas du coyote, où je pense que de façon assez consciente, Chuck Jones n'a pas voulu qu'on s'identifie beaucoup au Roadrunner, dont le rôle est d'ailleurs de disparaître. Ce n'est pas le cas, comme tu disais, pour Titi et Gros Minet, ce n'est pas le cas pour Jerry non plus. On les suit eux aussi dans leur quotidien, on les voit interagir beaucoup plus que Roadrunner.
Oui, ben en fait, ce qui distingue vraiment Roadrunner et Coyote des autres, c'est comme on l'a dit précédemment, c'est que les deux personnages semblent habiter dans des sphères différentes. Il a été question que l'un vivait dans le réel, l'autre dans la fiction. On a dit aussi qu'il y avait deux lois de la physique différentes. En fait, on pourrait aussi transposer cette opposition au registre fictionnel lui-même, au registre de représentation, à part peut-être les éléments comme par exemple se mouvoir à l'aide d'une baignoire attachée à soi. Mais de manière générale, le coyote est dans un univers plutôt réaliste, c'est-à-dire les lois de la physique s'appliquent à lui. Ce qui est fascinant avec le Roadrunner, c'est qu'il devient un personnage, je dirais, postmoderne, faute de meilleurs qualificatifs, c'est-à-dire que lui est capable de jouer de la fiction dans la fiction. À preuve, tous les trompe-l'œil, finalement, que déploie le coyote, où finalement le Roadrunner serait censé, finalement, se fracasser contre la falaise. Et en fait, non, le Roadrunner est capable d'y entrer et même de faire sortir des camions du trompe-l'œil pour écraser le coyote. Et donc, c'est peut-être le seul moment où le Roadrunner agit réellement, c'est-à-dire le reste du temps, il passe son temps à s'enfuir ou finalement à narguer le coyote, mais est très indifférent. Et le seul moment où le Roadrunner est intéressant est lorsqu'il est capable finalement de profiter de la représentation dans la représentation, ce qui donne finalement une autre opposition fondamentale entre les deux personnages.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le rôle du trickster, traditionnellement dévolu au coyote dans les mythologies autochtones, en fait, il est plutôt du côté de Bip Bip. De la même manière que, curieusement, comme je disais au début, le texte qui inspire Chuck Jones de Mark Twain, dans le texte de Mark Twain, c'est un chien qui poursuit le coyote et non pas le coyote qui poursuit. Et donc, c'est assez curieux parce que la logique de l'inversion, qui elle aussi est très baroque, elle est constante. Et pour reprendre un peu la métaphore baroque, ce qui est très curieux, c'est que tout fonctionne. Si on pense par exemple à The Tempest de Shakespeare, tout fonctionne comme si cet univers-là était l'univers, au fond, créé par le Bip Bip. Et que le monde des illusions, c'est comme à Prospero dans son île, le monde des illusions se plie à cette sorte de magicien baroque qu'est Bip Bip. Et là, on aurait presque une sorte de relecture, puisque dans le monde baroque, il était toujours un peu question, quelque part, de la question du démiurge et de la question gnostique. Mais ce qui est peut-être l'identification avec le coyote, c'est que justement, il est peut-être dans le monde d'un mauvais démiurge et qu'il est confronté aux limitations que tous les humains, nous vivons dans une création mauvaise.
Il y a aussi une différence qui vient de m'apparaître en parlant de tout ça, c'est les différences de taille entre les personnages. Habituellement, on a donc un personnage plus petit dans le cadre de Tom et Jerry et Titi et Grosminet qu'on n'a pas avec le Roadrunner qui finalement fait la même taille parce qu'on les voit souvent l'un à côté de l'autre. Ils font en fait à peu près la même taille, le coyote et lui. Donc certes, c'est un oiseau qui ne vole pas, mais il a cet atout en plus de faire la même taille, ce qui n'est pas le cas dans justement Titi et Grosminet. Cependant, Titi a une capacité plus développée à voler, même s'il ne peut pas voler longtemps. Dans certains épisodes, on le voit s'envoler vers sa cage. Alors bon, il n'y arrive pas forcément bien, mais il y arrive quand même et ça lui permet justement d'échapper à temps aux griffes de Grosminet. Après, bon, Titi, on peut se dire qu'il est resté aussi dans le stade de cet oisillon qui a du mal finalement à voler, qui n'a pas appris correctement à voler. Et Jerry est plus rapide, il est petit, il peut passer dans des endroits qui ne sont pas adaptés à Tom, mais c'est vrai que la taille, finalement, c'est peut-être aussi ce qui fait l'atout du Roadrunner, et c'est pour ça aussi qu'on préfère aussi... En fait, ils sont mis sur le même pied, voilà, d'égalité, physiquement, mais pas tout à fait, grâce justement, comme on en parlait avant, à la physique des cartes.
Pour rebondir justement là-dessus, je pense qu'il y a aussi un autre détail qui justement rééquilibre les forces, même chez les plus petits, c'est que ce soit Titi ou Jerry, ils ont des adjuvants, ils ont des aides pour les aider à échapper à leur poursuivant. Ce qui n'est pas le cas de Bip Bip, qui ne compte que sur lui-même, parce qu'il n'a pas besoin d'être défendu par un autre que lui-même. Par exemple, pour Titi, c'est Hector le Bulldog. Pour Jerry, ce serait la mère de famille, ou du moins la maîtresse de maison, même si la maîtresse de maison est aussi l'ennemi quelque part, puisque le devoir de Tom, c'est justement de capturer Jerry parce que c'est une souris et que c'est son devoir de chat de capturer la souris. Mais sinon, je pense que Tom n'a pas besoin, ce n'est pas un besoin affamé de capturer Jerry. Il vit dans l'opulence, Tom, c'est un chat pas chat. Il est bien nourri, il est même très profiteur des bienfaits de sa maîtresse. Et finalement, à la différence du coyote dont on peut imaginer qu'il a besoin de manger, même si c'est à se demander comment il fait pour payer ses factures à Agmé d'ailleurs, mais le coyote a besoin de manger, tandis que Tom, et d'ailleurs probablement Sylvestre également, n'a pas spécialement besoin, c'est juste la volonté de capturer leur proie. Et justement, ils vont devoir se défendre contre d'autres éléments que les éléments naturels, c'est-à-dire contre des prédateurs qui leur sont aussi à eux naturels, donc le balai pour le chat, pourrait-on dire, et le bulldog pour Sylvestre. Mais voilà, je pense qu'on a aussi ce rapport d'égalité et un rééquilibre des forces permanent, justement, entre le petit et le gros, quand il y a une différence.
À propos de ce que disaient Wendy et Sylvain sur Bip Bip, effectivement, il y a ce rapport d'équivalence de taille entre les deux, mais clairement, Bip Bip, graphiquement, il est dans la pure fiction, parce qu'il devient très très vite un nuage de fumée, une trace, une espèce de voilà d'évanescence graphique, alors que le coyote, lui, il est toujours dans un univers en trois dimensions, enfin avec des objets, qui ont un poids, qui ont une charge matérielle, et ça finit par ruiner l'équivalence de taille, parce que graphiquement, ils sont pas du tout traités de la même manière. Et Roadrunner, il est vraiment hors du réel. On ne sait pas comment il mange, on ne sait pas comment il dort, on ne sait pas comment, enfin, etc. Et donc, il y a cette espèce d'ambivalence de les mettre sur une sorte de pied d'égalité de taille, mais graphiquement, le traitement est aux antipodes. En fait.
C'est vrai que le Roadrunner est d'autant plus cartoonesque aussi de par ses couleurs. Il porte des couleurs assez vives, tandis que le coyote reste dans le réel aussi par ses couleurs qui restent celles d'un coyote, enfin, d'un animal que l'on peut voir partout. Et par contre, il y a eu des nouveaux Bip Bip et Coyote qui servent en plus de cartoon dans les cartoons, parce qu'en fait, on a dans les Looney Tunes Toons Show, je crois, on a donc le cartoon... on va dire général, avec Bugs Bunny, Daffy et tout le monde, on a une pause qui est d'ailleurs et qui met en fait en scène le cartoon du Roadrunner et Coyote, mais dans un univers totalement 3D, parce qu'en fait, l'image a été par volonté de, voilà, peut-être pour les enfants avec l'œil qu'ils ont actuellement pour la 4K et le 3D, peut-être pour eux, mais ils ont remis ça en 3D, mais on garde toujours cette idée que le... D'ailleurs, oui, pour ma part, je trouve pas ça très beau.
C'est pas bien, c'est mauvais.
Voilà, c'est vraiment pas très beau. Ça casse justement ce côté traditionnel qu'on avait dans le cartoon, et justement, par contre, ce que l'on garde et ce qui est intéressant, c'est cette idée que le Roadrunner reste d'autant plus dans le cartoon et d'autant plus un personnage cartoonesque que le coyote. Et sinon, je voulais juste revenir sur le fait que Tom et Jerry et Titi et Gros Minet, ils ont quelque chose en commun qu'il n'y a pas dans le cartoon de Roadrunner. C'est tout simplement que Titi et Gros Minet et Tom et Jerry font aussi équipe ensemble lorsqu'ils se retrouvent face à quelqu'un d'autre, un autre personnage qui rentre. Et il y a donc une amitié, même si elle est... un film n'est pas montré à chaque cartoon, mais on voit bien qu'ils s'aideront toujours. On peut le voir aussi dans le dernier film Tom et Jerry qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dans le film dessin animé, donc dans ce mélange qui rappelle aussi Space Jam, mais qui reste toutefois différent, qu'ils font équipe malgré tout pour sauver leur peau. Et on peut le voir aussi dans l'épisode Tom et Jerry avec la sorcière. On a, en fait, ils veulent s'installer, ils ont froid, il me semble, ils veulent s'installer dans une maison bien au chaud, tous les deux, donc ils s'entraident, finalement arrive une sorcière, enfin ils jouent du ballet magique de la sorcière, et là ils sont ensemble. On sent, c'est vraiment un élément récurrent, on le voit dans plusieurs épisodes.
Comme il a été question de graphisme, j'ai quand même l'impression que le visage du coyote est beaucoup plus sympathique et détaillé que le visage du Bip Bip. C'est aussi peut-être pour ça qu'on l'aime mieux quand on est enfant, du moins. Il a un visage beaucoup plus, non seulement beaucoup plus expressif dans les différentes émotions qui le traversent, quand il prend conscience, justement, comme disait Clément, qu'il va tomber, quand il prend conscience qu'il est encore refait, quand il prend conscience qu'il n'arrivera jamais à aller aussi vite, et même quand il prend conscience que c'est sûr, la fusée sur laquelle il est assis va exploser, et voilà. Bon, il me semble quand même qu'il a une gamme beaucoup plus étendue d'expression du visage que le Bip Bip, qui finalement, à part faire des gros yeux malicieux pour provoquer le coyote ou bien lui tirer la langue, est assez peu expressif.
Plus souvent d'ailleurs de profil.
Il est le plus souvent de profil. Il y a des moments où il s'humanise grâce aux pancartes. Coyote est au bord du précipice et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il tombe. Et le coyote a une pancarte. Bon, j'ai pas le cœur à le faire tomber, voilà, aujourd'hui. Bon. Et, bien sûr, il a quelques émotions qui sont transmises par les pancartes. Mais du point de vue du graphisme, j'ai l'impression que le coyote est quand même beaucoup plus sympathique. Et puis, cette espèce de gros museau, ses joues, etc., quelque chose qui...
Oui, en fait, bon, ceci va m'incriminer, mais en regardant des épisodes hier soir, je suis tombé sur un épisode, je ne me rappelle plus lequel, où le coyote, finalement, vit un revers, et finalement, son museau avec la truffe au bout tombe et se met à pendouiller. Et là, je me suis dit, non, mais finalement, son visage est un sexe masculin. Et donc, finalement, il y a les deux bajoux, et il y a ce museau qui est soit finalement tendu, soit finalement qui pend lors d'une déception. Et je me suis dit, bon, mais finalement, le coyote, c'est un sexe masculin sur pattes. Et j'y repensais tout à l'heure lorsque, finalement, plusieurs questions ont évoqué, finalement, la question de la sexualité ou du désir dans la poursuite. Et je me suis dit, bon, mais il y a quand même quelque chose de très inquiétant dans tout ça.
Et c'est aussi le cas lorsqu'il se cogne, quand il y a cette bosse donc, qui apparaît, et de plus en plus grande, où souvent l'autre personnage aussi essaie de la faire rentrer dans la tête et qui finalement revient. Mais ça, c'est vrai que c'est une représentation très, très sexuelle, et c'est là qu'on voit que les cartoons peuvent être tout public aussi par ce côté assez drôle de la sexualité.
Oui, il ne faut pas oublier que les cartoons n'étaient pas destinés aux enfants à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, ces cartoons passaient en avant des films du circuit hollywoodien, donc pour Columbia, Warner Brothers, etc. Chaque grand studio avait sa division. Ça faisait partie de la soirée au cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait les newsreels, qui étaient comme des sortes de journaux d'infos. Il y avait les cartoons pour de la détente, etc. Et celui qui avait poussé le plus loin les aspects sexuels de façon tout à fait explicite, c'était Tex Avery, que Chuck Jones avait travaillé. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que les Simpsons, etc., ont inventé, cette tradition des cartoons qui s'adressent à la fois à un public adulte et à un public enfantin. Mais même dans l'âge d'or du cartoon américain, c'était presque plus à un public adulte, au fond, qu'à un public, notamment pendant la guerre, par exemple, pour les soldats, etc.
Du côté de Tex Avery, comme tu le disais, je pense qu'il y aurait un article entier à faire, si ça n'a pas déjà été fait par ailleurs, je ne sais pas, sur la langue dans les cartoons. Et ça marche aussi très bien pour Coyote, du coup, mais la langue pendante... pour Tex Avery, c'est une évidence absolue, notamment avec le loup, quand il essaye de séduire, si on peut dire, la jeune femme. Vraiment, la langue qui tombe au sol, ça participe à montrer graphiquement le désir, du coup, la plupart du temps masculin. Et là, pour le coup, pour le coyote, quand il a souvent la langue sortie, parce qu'il est certes affamé à l'idée de manger enfin le bip-bip, mais justement, de ce point de vue-là, il y a peut-être complètement quelque chose qui l'émoustille sexuellement parlant, effectivement.
C'est très curieux parce que la série a été obligée d'une certaine manière d'adresser cette question, justement dans l'épisode qui met en scène sa réception par les deux enfants. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que c'est à travers cette mise en abîme de la réception que la question est posée à quoi goûte le bip-bip. Parce qu'au fond, la question implicite des enfants, c'est bon, mais pourquoi chasser tout le temps le même bip-bip, comme si c'était donc la seule source de nourriture dans cet immense espace, et qu'il n'y en avait pas d'autre, et qu'il n'y avait pas d'autre d'ailleurs de son espèce, ni d'aucune autre espèce. Et donc, la série, de façon assez singulière, déplace la question du manque et de la quête qui sont très associés au désir, Freud, ensuite chez Lacan, etc., mais le transfert dans le registre de la nourriture. Alors, on apprend à ce moment-là que le bip-bip est une sorte de corne d'abondance en lui-même. On sait que la tête goûte à la fois à la banane, l'asperge, la papaye, la réglisse, la vanille, la génoise et le céleri, que la queue et le cou goûtent au caramel, au salami, au tamal, le corps au chop suey, nouilles, côtelettes de porc, les pâtes au fromage cheddar, martini double, très sec, bratwurst, Yorkshire pudding et pistachier vrai. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au fond, la formule totalement incongrue, très oulipienne à nouveau, et puis très surréaliste, si on veut. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que c'est une manière étrange de répondre à la question à quoi goûte le bip-bip, de la même manière que quand les enfants demandent comment ont fait les enfants, les parents passent par toutes sortes de formules plus ou moins évasive, surtout à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas avec les cours d'éducation sexuelle dans la maternelle, mais en même temps, à l'époque, c'est sûr qu'on partait un peu sur cette... Mais c'est une manière curieuse de vouloir motiver à l'intérieur de la série pourquoi le coyote serait si intéressé, et donc pour montrer le repas du bip-bip comme une sorte de condensé absolu de toutes les nourritures. Une sorte de manin, au fond. C'est vraiment une sorte de manin profane, séculier. Donc, assez singulier aussi.
Je voulais revenir sur ce que tu disais. Lisez, lisez, lisez les intellectuels de la gauche hollywoodienne. Dans la définition, disons, presque anthropologique de Bip Bip et Roadrunner, Bibib, il prétend être illettré. Quand il dit « Roadrunners can't read », oui. Sauf qu'il a quand même écrit la pancarte où c'était marqué que les Roadrunners ne savaient pas lire, donc il se fiche du monde. Et le coyote, lui, il sait lire les pancartes ou les détourner pour les… Enfin, bref, pour les... Et puis, en fait, il ne lit que des modes d'emploi de Acme. Enfin, c'est quand même terrible. Et manifestement, il ne comprend pas ce qu'il lit parce que… Moi, je veux bien qu'on dise que les produits Acme sont foireux par définition, mais je crois qu'il y a aussi le fait que Roadrunner, il présume de ses capacités intellectuelles. S'il suivait le mode d'emploi traduit du chinois par un turc emprisonné, enfin donc c'est incompréhensible, peut-être qu'il aurait moins de soucis avec les produits Acme dont le nom est absolument formidable, c'est une espèce de point culminant. Nécessairement, dès qu'on a ouvert la boîte Acme, c'est la chute, quoi. Enfin, on est arrivé au sommet, donc on n'a plus qu'à se vautrer en bas de la falaise. Mais c'est le fait que l'illettrisme prétendu de Bip Bip, le quasi-analphabétisme technologique du coyote soit constamment mis en balance, c'est un drôle de rapport à la culture. C'est complètement sarcastique, évidemment, là. Si vous n'êtes plus capable que de lire des pancartes ou des modes d'emploi de machines, mais vous êtes mort pour l'intelligence, quoi. Enfin, c'est que ça m'a fait, hein, en les revoyant. Quand je les ai vus quand j'étais gosse, non, je n'ai pas du tout pensé à ça.
Non, tout à fait. Ça me rappelle que Scorsese, dans son très beau voyage dans le cinéma américain, donc cette sorte d'histoire du cinéma américain, il caractérise les réalisateurs des films noirs des années 40 comme les contrebandiers, puisqu'il dit, au fond, c'était les gens qui faisaient contrebande de toute une série de visions très subversives à l'intérieur d'un genre apparemment donc très hollywoodien et très plaisant comme pouvait être le cinéma policier. Et ce qui est très curieux, c'est que ça s'applique encore plus aux auteurs de cartoons, qui étaient des véritables contrebandiers, dans le sens où, justement, parce que personne n'allait regarder dans le détail ce qu'ils étaient en train de faire, ils se permettaient d'attaquer des tabous de manière beaucoup plus radicale que dans les films qui, eux, étaient quand même soumis au code de Hollywood Code Hayes, etc.
Il y a aussi dans le sarcasme par rapport à l'espèce de fausse culture américaine, l'esthétique militariste dont a parlé, anti-militariste dont a parlé Sylvain, moi je le rattache vraiment à une esthétique qui est l'esthétique futuriste du début du XXe siècle. L'éloge de la vitesse, l'éloge de la guerre. Je pensais le graphisme du Roadrunner dont on a dit, là, cette espèce de tourbillon comme ça, c'est vraiment un graphisme à la Giacomo Balla, le chien qui court, là, on voit les pattes du chien qui court, ce tableau de 1911-1912, je ne sais plus, qui est extrêmement drôle, ou la main du violoniste, ce qu'on veut marquer, c'est le pur mouvement. Or, cette esthétique futuriste, c'était une esthétique belliciste. Et là, évidemment, le bellicisme, le militarisme foire complètement, et fort heureusement. Les fusées piquent du nez, quand il met une batterie de fusils à le coyote qui déclenche avec une série de fils, toute la batterie se retourne et il se fait canarder largement. L'espèce de sous-texte sarcastique, antimilitariste. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, pour la question de la réception, je ne sais pas dans quelle mesure c'était perçu à l'époque comme tel. Hein, tu disais les contrebandiers de la culture. Est-ce que les spectateurs percevaient cette dimension iconoclaste, et subversive, en fait?
C'est ce qu'on suppose pour le film noir aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui pour nous sont maintenant évidentes. Alors évidemment, je pense qu'il y avait les deux. Il y avait des spectateurs qui étaient tout à fait sensibles à ça. D'ailleurs, les cartoons vont avoir une importance. N'oublions pas l'influence, par exemple, sur Boris Vian, etc. Mais dans la littérature américaine, Pynchon et tous les autres, tous les postmodernistes sont complètement marqués, Barthelme, etc., par les cartoons. Donc, je pense que les cartoons ont eu une lecture sarcastique, politique, etc., etc., de la même manière que certains comic books, etc. Et puis, je pense que aux autres, comme nous, quand on était enfants, évidemment, on n'était pas nécessairement sensibles à tous ces aspects-là. Et c'est la question qu'on continue à se poser pour Simpsons, South Park, etc. etc. C'est les différents niveaux d'interprétation possibles qui se côtoient sans cesse. Et le fait qu'il puisse y avoir, que les Simpsons, par exemple, puissent être à la fois aimés par des républicains et des démocrates. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont quand même un peu, qui font tout la force du entertainment américain. C'est qu'ils ne sont pas partisans au sens que ce n'est pas juste quelque chose que les gens de gauche, les gens de droite vont apprécier, etc. Et Hollywood vise toujours à avoir cette multiplicité de messages. C'est son fond de commerce, au fond. C'est le fait que dans une nation qui est quand même divisée depuis toujours, les États-Unis, qui en plus s'adressent au monde dans un contexte global, c'était déjà le cas pour Coyote, qui a eu un succès mondial, c'est l'idée qu'il faut adresser plusieurs publics dont les orientations sont totalement diverses. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a permis la contrebande de la critique américaine.
Justement, à ce propos, je pense que dans le Coyote et le Bip Bip, il y a une volonté aussi de se moquer de cette culture savante déjà au tout début avec les noms latins. Le narrateur, à chaque début, il nous présente l'espèce, en fait, donc d'un point de vue... en zoologie, et il fait ses commentaires aussi un petit peu en précisant que bon, le coyote il est un peu bête. Il le dit à un moment, il l'évoque. De mes souvenirs d'enfant, quand j'étais petite, je savais que c'était les noms, comme latin qu'on pouvait donner aux espèces parce qu'elles ont toutes un nom latin. Sauf qu'ici, on voit bien que c'est pour se moquer et c'est justement là où l'on peut comprendre plus grand qu'il y a aussi une volonté de se moquer de cette culture savante qui veut tellement tout dire qu'on se perd peut-être aussi dans ce qu'elle veut dire. Alors qu'ici, le cartoon, qui est aussi de la culture, peut-être pas populaire, mais de masse, parce qu'elle regroupe tout le monde, montre qu'en fait, lui, le cartoon, l'œuvre va en dire bien plus que ces éléments... un peu issu de la culture savante du début.
Je vous rappelle donc certains de ces surnoms puisqu'on y fait question. Roadrunnerus digestus, itibus anythingus, famicius famicius, itibus almost anythingus, itius birdius, famicius fantasticus, eternally famicius. Je ne sais pas nos collègues de latin ce qu'ils en penseraient. Famicius vulgarus, famicius vulgaris ingeniusi. Donc, un peu valorisant. Itibus lobius, erd edipus, donc Oedipe, tête dure et pied enflé. Carnivore, d'ailleurs, qui rappelle le célèbre article de Lévi-Strauss qui revenait à l'idée du pied enflé d'Oedipe original. Herd edipus ravenus, appetitus giganticus, hungry flea bagius, over confidenti vulgaris, caninus nervus rex.
Et je ne les avais pas en tête, mais voilà, c'est tous ces éléments pour se moquer de ces formules latines initialement qu'on a en zoologie. Et c'est une belle façon de se moquer.
De toute façon, beaucoup de gens maintenant connaissent surtout les itérations postmodernes des cartoons, etc., en pensant que c'est quelque chose qui est vraiment comme très novateur dans les années 90, etc. Mais tous les gens, Matt Groening, etc., ils sont tous des fans finis de Chuck Jones, de Tex Avery, etc. Clément, tu voulais aussi parler de la musique, non ?
Je pense qu'il faut, en dire un mot parce qu'elle a un rôle, me semble-t-il, extrêmement important dans ce genre de cartoon et précisément donc, du coup dans celui-ci, puisque je pense que ça n'aurait absolument pas de sens de regarder Roadrunner sans le son, parce qu'il me semble que, comme il n'y a pas de parole, la musique prend un rôle absolument prépondérant. Tout est calculé, tout est millimétré. Il y a ce que j'appellerais une grammaire musicale qui fait en sorte que l'épisode arrive à son point. C'est quelque chose qui, quand j'étais... petit me marquait déjà dans les Chaplin. Dans les Charlie Chaplin, je pensais vraiment que la comédie venait vraiment de la musique qui accompagnait les chutes et déboires de Charlot. Et bien, il se trouve que dans Bip Bip et Coyote, ça a pour moi, me semble-t-il, la même fonction. Et j'ai toujours trouvé ça confondant, justement, le fait que la musique soit aussi importante dans ces cartoons et surtout qu'elle nous dise quelque chose bien plus efficacement que ne pourrait le faire des dialogues parlés, finalement. Je ne sais pas si je suis le seul qui a cette sensation en ayant revu les cartoons, mais ça m'a toujours fasciné, en fait.
Oui, puis là aussi, il y a des éléments de parodie. Chuck Jones aimait beaucoup intégrer des éléments de la haute culture, justement, les opéras wagnériens, toutes les références de la grande...
Bugs Bunny qui conduit un opéra, c'est merveilleux.
Oui.
J'ai toujours aimé la façon qu'avait Bugs Bunny de parodier de façon très noble, justement, tous les meneurs de concert un peu emperruqués avec les baguettes. Et vraiment, me semble-t-il, pour les Looney Tunes, c'est vraiment quelque chose d'identitaire, cette musique-là.
Donc ça s'appelle Merry Melodies.
Oui, oui, qui plus est, effectivement.
Il me semble qu'il y a effectivement deux types de rapports au son, justement, parce qu'il y a les cartoons, avec les cartoons musicaux, en quelque sorte, de type Coyote. Et effectivement, la musique est très importante. Et il y a les cartoons parlants. De type soit avec narrateur, c'est-à-dire un narrateur qui parle et qui raconte, ce qu'on trouve dans Les Fous du Volant, par exemple. Parce que les Fous du Volant, ça me semble assez proche dans l'esprit de Bip Bip et le Coyote, parce que c'est la quête absolument vaine. C'est-à-dire que c'est gagner une course pour on ne sait pas quoi faire finalement de tout ça, etc. Bon, c'est la quête pour elle-même et ce n'est pas l'objet qui compte, en quelque sorte. Mais c'est parlant, il y a le narrateur et ça me semble très différent, justement, peut-être uniquement dans le rapport au son. De même pour les pierres à feu, par exemple. Dans les pierres à feu, on est dans un type de cartoon complètement opposé, me semble-t-il, au type issu de Bip Bip, de Tom et Jerry, de Titi et Grosminet, etc. Donc, je crois qu'il faudrait faire une sorte de typologie où on aurait des cartoons parlants et des cartoons musicaux et voir comment des cartoons peuvent se moquer aimablement de la musique, ou bien traiter la musique avec sympathie, ou bien au contraire se moquer de la voix off qu'on trouve dans un certain nombre de films de cinéma et de pas de cartoon. Je pense à l'inspecteur Mumbly, par exemple. L'inspecteur Mumbly, il parle sans parler, puisqu'on ne comprend rien à ce qu'il dit. Il est un parlant muet, en quelque sorte. Donc, il y a Speedy Gonzalez, finalement, qui est entre l'onomatopée et le discours. Et je crois que le rapport à la musique et à la parole, ça mériterait un article.
Oui, la Panthère Rose, justement, qui revient aussi. Parce qu'il y a aussi une histoire du médium, une histoire des cartoons, et que c'est vrai que les cartoons des années 40 ne sont pas les mêmes que ceux des années 50, 60. Et le Coyote, par sa longue durée à travers les années 50, un peu repris dans les années 60 et ensuite repris, il aura connu aussi différentes itérations. Mais son époque classique, c'est vraiment les années 50, qui sont des années intéressantes pour l'histoire du genre.
Par rapport à la thématisation de la culture dans les cartoons, dans un épisode de Seinfeld, Elaine, qui travaille dans le milieu de l'édition, fait la remarque à Jerry, très découragée, « La seule connaissance de la haute culture que tu as te vient des cartoons ». Et c'est très révélateur comme remarque dans les années 90 parce qu'on imagine qu'à l'époque où ces cartoons étaient faits, cette connaissance de la haute culture était quand même partagée. Elle est à la base d'un imaginaire et donc on pouvait la parodier et on savait de quoi il s'agissait. Alors qu'effectivement, pour les générations qui ont suivi, effectivement, peut-être qu'on connaît le Barbier de Séville, on ne connaît Wagner qu'au travers finalement de Bugs Bunny, ce qui est très paradoxal.
Oui, je pense que c'est notre première initiation. J'avais parlé avec Vincent Jouve et je disais, au fond, nous avons été introduits à la culture par les cartoons. Et c'est comme ça qu'on a tous commencé la culture. Donc, et c'est un rôle fondateur parce que de la même manière que les petits Grecs apprenaient les mythes d'Homère et tout ça, nous, c'est vraiment les cartoons. Et c'est très curieux que quelque chose qui soit aussi crucial pour la formation de tous nos concitoyens de partout, ait été tellement ignoré pendant très longtemps et on se soit tellement peu occupé de cela.
En France, quand j'étais plus jeune, Philippe Dana était mon héros parce que c'était le présentateur de sa cartoon. Et sa cartoon, c'était vraiment très fondateur comme émission dans mon imaginaire, parce que ça me permettait de voir les cartoons en famille avec mes parents et mes frères. Et c'était aussi le signe que l'école reprenait malheureusement puisque c'était le dimanche soir. Donc il y avait une espèce de mélancolie qui était contrebalancée par le fait que j'allais voir Bugs Bunny et ses amis pendant de longues minutes. Donc du coup, je crois qu'on peut rendre hommage en France, en tout cas, à l'émission Sa Cartoon de l'époque.
C'est vrai que je partage exactement le même souvenir parce que il me semble que ça passait sur la 4 ou.
Oui, c'était Canal Plus, je crois.
Et donc, étant petit, j'y avais pas accès moi à Canal Plus, mais le moment où ça passait, justement, où je pouvais me retrouver devant sa cartoon, là, je pouvais avoir accès à l'image. Sinon, ça faisait c'était grisé avec le petit bruit.
Avec la neige.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que il y a aussi quand j'ai réfléchi pour travailler sur ce sujet de mémoire, je me suis dit, il faut que j'ai aimé ma licence, mais j'ai envie d'encore plus aimer mon master et trouver un sujet qui vraiment me passionnait. Et je n'aurais jamais pensé pouvoir travailler là-dessus. Et c'est à la suite d'un essai, justement, que Sébastien Hubier, justement, que j'avais fait sur Titi et Gros Minet, que je me suis dit, pourquoi pas voir plus loin là-dessus sur le mémoire. Mais même si j'avais eu un sujet initialement différent, en fait, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler là-dessus, je me suis dit, mais parce je pense qu'en France aussi, il y a cette volonté de se dire, il faut qu'on travaille sur des choses anciennes, c'est mieux. Alors que je pense que finalement, non, les deux sont très bien.
Surtout qu'on pourrait, en réalité, on pourrait faire ça de façon systématique, c'est-à-dire une critique sociologique du Coyote. Une critique, c'est un peu ce qu'on a fait finalement, une critique, une psychocritique, une critique psychanalytique du Coyote, une critique historique du Coyote, une critique formelle du Coyote, etc. Reprendre les grandes écoles, même, disons, des études littéraires classiques, on pourrait très bien les appliquer au Coyote, au fou du volant, à Titi et Gros Minet, ou même à Scooby-Doo, finalement, la fausse enquête. Scooby-Doo, les épisodes de Scooby-Doo, c'est une sorte de nouveau roman du cartoon. Il se passe finalement rien, et c'est l'évocation du monde et de l'atmosphère qui fait tout. C'est les gommes de robe grillée en mieux, en quelque sorte, les Scooby-Doo, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est la mise en scène d'une atmosphère et d'une description du monde beaucoup plus que d'une action. Il se passe très peu de choses. Dans le Coyote, au contraire, il y a une accélération de la diégèse, mais ce n'est pas le cas dans tous les cartoons. Et on pourrait très bien reprendre toutes ces grandes catégories et les regarder au sein de la culture pop. Et même, puisqu'Antonio, tu parlais du code S, par exemple, voir comment des phénomènes de censure ont pu s'appliquer malgré tout dans les cartoons, puisque au départ il a fallu habiller les vaches. Quand même, il faut se rappeler de ce moment où le code Hays impose qu'on habille les vaches, de leur mettre une robe pour cacher les pis de la vache. Donc, non, mais c'est quand même terrible de penser à Annabelle chez Disney, etc., qu'on doit habiller pour qu'on ne voit pas ses pis. Donc, il y a aussi une histoire de la censure à faire au travers des cartoons. Et on voit bien d'ailleurs que même si la censure ne s'est jamais appliquée aux Coyotes classiques des années 50, on voit quand même bien une différence entre le Coyote des années 50 et le Coyote d'aujourd'hui. Pas simplement du point de vue des graphismes, mais dans une liberté de ton et d'action. Bon, c'est vrai, moi je suis un peu comme Wendy et Anne-Elisabeth, ils me plaisent moins, les coyotes d'aujourd'hui, graphiquement, etc. Mais je vois bien aussi qu'il y a une liberté en quelque sorte qui n'est quand même pas, qui n'a pas disparu et qui continue à rendre tout ça, Coyote et son bip-bip, assez vivant.
Il me semble que c'est un bel éloge des deux créatures qui nous ont occupés. Donc, merci tout le monde pour ce parcours effréné, sinon frénétique, de l'univers de Bip Bip et Roadrunner. Nous nous retrouverons bientôt, j'espère, pour d'autres sujets, d'autres émissions.